Bonjour à toutes et à tous, curieuses et curieux, terriens et humains, belles plantes décalées. Vous qui savez cultiver le vivant en chacun, bonjour et bienvenue dans l'onde curieuse. Aujourd'hui, on fête un anniversaire, ou plutôt, on en parle. On fait une avant-boom d'anniversaire, comme certains font des after-work. Une avant-boom à fréquence 7 pour fêter les 30 ans de Terre et Humanisme, qui sera dignement et joyeusement, j'imagine, célébré le 8 juin à Paysac. Et oui, 30 ans déjà que l'association fondée autour des idées de Pierre Rabhi œuvre à la diffusion, à la transmission, à l'expérimentation de l'agroécologie en Gardèche. En Ardèche et dans le Gard, en France, en Afrique de l'Ouest, 30 ans que des graines sont semées, quels en sont les fruits aujourd'hui? Sont-ils doux, sucrés, amers peut-être pour certains? Quelle est la place de l'association et de l'agroécologie aujourd'hui, alors que le monde paysan et agricole a crié sa colère il y a peu et que le pâté bon marché continue de colmater les artères des moins riches d'entre nous? Et justement, que mange-t-on à cette fête d'anniversaire? De quoi va-t-on se nourrir? De réflexions autour de tables rondes, d'ateliers, de balades, de documentaires, de jeux et de musique? Et un peu de bière aussi, j'imagine, un peu de vin. Enfin, quand même 30 ans, on est adulte depuis un petit moment maintenant. Pour en parler aujourd'hui avec nous, j'ai le plaisir de recevoir Julia Berda, chef de projet Solidarité France. Bonjour Julia.
Bonjour.
Et Virginie Sanchez, qui est coordinatrice des formations. Bonjour.
Bonjour.
Virginie. Merci à toutes les deux d'être parmi nous. Et puis, merci à Sylvain, à la réalisation. Salut Sylvain.
De rien, bonjour.
Bah oui, de rien, tu commences, c'est vrai. Et puis, en fin d'émission, vous retrouverez la chronique hebdomadaire La Minute Asso, qui est consacrée, vous le savez maintenant, chaque lundi à l'actualité de l'accompagnement associatif. Formation, agenda, conseils prodigués par les têtes des réseaux associatifs en Ardèche. Et aujourd'hui, ce sera Mylène Villard, qui est coordinatrice des structures de loisirs Sud-Ardèche, qui va nous présenter une expérimentation originale, la VAE inversée. Ça, c'est décalé, c'est pour ça qu'on en parle ici à fréquence. La VAE inversée, donc c'est validation d'acquis et d'expérience, et qui concerne les associations du secteur de la petite enfance et de l'enfance de l'Ardèche. Voilà, Mylène éclaircira pour nous ce qui reste encore énigmatique en fin d'émission. Mais avant, eh ben c'est un petit point agenda, un brin cafouilleux aujourd'hui, mais rassurez-vous, il sera court. Pour se préparer au festival d'Alba qui aura lieu du 9 au 14 juillet et ainsi se gymnastiquer les zygomatiques, c'était pas facile, puis j'explose les points du Scrabble. Entraîner sa souplesse d'imagination, les préalables prennent place du 4 au 9 juin dans les villes et villages de la communauté de communes Ardèche-Rhône-Coiron. Ce sont 10 spectacles gratuits et en plein air dans 14 communes. Un mot des premiers spectacles, et puis vous retrouverez toute la programmation sur le site du Festival d'Alba. Premier spectacle, ça commence par Mentir lo minimo de la compagnie Alta Gamma, mardi, donc c'est demain à 19h au Boulodrome à Meis. Et ce sera précédé d'une visite du village à 18h15 par une guide conférencière de l'Office du Tourisme. Alors Mentir lo minimo, c'est un spectacle de cirque minimaliste avec un homme, une femme, un vélo, pour aborder l'acceptation de soi au travers du corps. Et puis le suivant, ce sera Parole en l'air, du duo Ginger Moustache, le mercredi à 17h à Saint-Bosile, et puis il sera aussi à Saint-Symphorien sous Chomérac, le lendemain, c'est-à-dire jeudi à 18h. Qu'est-ce que c'est Parole en l'air? Eh ben, c'est un cirque bavard, c'est ce qu'ils en disent, où le duo joue avec tous les codes. Voilà, ça c'est les deux premiers spectacles gratuits dans le cadre des préalables du 4 au 9 juin, donc dans 14 villes et villages de la communauté de communes Ardèche-Rhône-Coiron. Et puis vous trouverez toutes les informations sur lefestivaldalba.org. Mercredi, la médiathèque de Montpezat propose deux rendez-vous. Un l'après-midi de 14h30 à 16h, c'est une rencontre autour du projet Un voyage sur la Transévenole dans le cadre du projet porté par le Parc naturel régional des Monts d'Ardèche. Cette rencontre sera animée par le cabinet Alchemie C'est Sophie Maneval, interprète du patrimoine, Véronique Bénet, qui est illustratrice et carnettiste, et Claire Lauzon, qui est réalisatrice sonore. Au fil d'ouvrages édités sur la voie et sur les chemins de fer, au fil de montages sonores aussi réalisés à partir de témoignages, d'une chanson surprenante, d'esquisses de Véronique Bénet, cette rencontre sera l'occasion mercredi donc de découvrir cette drôle d'aventure qui mêle les voix aux voix et vice-versa, ça marche aussi. Donc ça c'est un voyage sur la Trans-Sévenol, mercredi de 14h30 à 16h à la médiathèque de Montpezat. Et puis le soir, à 18h, c'est Tintin l'envers du décor. Et oui, qu'est-ce que vous savez de Tintin au fait ? Hergé, c'est qui exactement ? Et Tintin, est-ce qu'il a existé ? Ah Sylvain, est-ce qu'il a existé Tintin ?
Oui.
Ben oui, puisque c'est Milou qui le dit. Ben, tu as raison. Qui se cache derrière les deux Dupont et Tournesol ? Est-ce un avatar ? Enfin bref, toutes ces questions, vous aurez peut-être des réponses avec Henri Klins qui nous présentera donc Tintin l'envers du décor à 18h mercredi à la médiathèque de Montpezat. Et puis à noter aussi qu'à l'occasion de cette conférence sur Tintin, la mairie met à disposition la halle couverte devant l'épicerie à partir de 17h. Vous aurez une heure pour échanger des livres et des objets sur Tintin avant. Évidemment, l'entrée est libre à ces animations. Je dis évidemment puisque ça se passe toujours comme ça à la médiathèque de Montpezat. Enfin, si vous voulez aussi vous participer à l'élaboration d'une programmation culturelle et que vous habitez en Sud-Ardèche, sachez qu'il se passe des choses du côté du Madaudet et de son jardin à Saint-Alban-Auriol. Ça fait un an qu'une équipe de bénévoles travaille à la création d'une salle d'expo, dans les caves du Madaudet donc, et alors que les travaux viennent de se terminer et qu'une première expo va bientôt être inaugurée, eh ben il faut s'organiser. Comment gérer la salle, quels artistes choisir, comment planifier les expos, mais aussi quels autres événements proposer. Alors il y a déjà dans les tuyaux hein, quelques pistes, un salon de créateurs, un salon du livre, des veillées comptées, enfin plein de choses. Mais vous, si vous voulez cogiter et co-créer ces événements, eh bien une réunion d'information est organisée jeudi à 20h à la salle intergénérationnelle de Saint-Alban-Auriol, rue Marius-Perbeau. Voilà. Donc, soyez-en et soyez imaginatifs. On poursuit avec un petit avant-goût des 30 ans de Terre et Humanisme qui aura lieu le 8 juin. On en parle dans un instant, ce sera le sujet de notre onde curieuse, mais avant donc pour se mettre dans l'ambiance, on plonge avec Commandant Cousteau.
From a police to a commissioner, and in the commissioner living in a big mansion, man will promote his own career. And if somebody don't kill somebody's good play, would have no jail cut off. Some magistrate let a man cut up and somebody body custody in the car tonight. Tell for it. And if somebody don't bust somebody's face, only policemen go to make a case. And if somebody don't dig out somebody eyes, magistrate would have nobody to try. If somebody don't kill somebody dead, all the judges go to beg their bread. So when somebody got to have somebody head, instead of things they should pay their money instead. Going to pay a man of need or four, 'cause you kick me and I break you, uncle. Man of need.
police, you on the criminal. Men of the law becoming social, living off high society, associating with big company. And why should kiss a criminal anyway? Void up of them, making them all every day. Must call it toys to some of them effect. But the fall of crime is rising on the next. And if somebody don't bust somebody's face, all the policemen going to make a case. And if somebody don't, they got somebody else. But it's not good enough, nobody to try. If somebody don't kill somebody, all the judges go to beg their bread. So when somebody got to have somebody, hey, then I find they should pay them money instead.
Oh, commandant Cousteau, No Crime, No Law, qui nous a enchanté. Alors vous aurez entendu des petits rythmes caribéens, le tout imbibé de chants marins. C'est commandant Cousteau et ils seront à 23h15 sur la place de l'église de Payzac le 8 juin pour fêter les 30 ans de Terre et Humanisme. Terre et Humanisme, 30 ans, mais justement, on en parle avec nos deux invités, Julia Berda, qui est chef de projet Solidarité France à Terre et Humanisme, et Virginie Sanchez, qui est coordinatrice des formations. Rebonjour à toutes les deux. Alors, 30 ans, Terre et Humanisme, il faut qu'on replace un petit peu et qu'on se remette dans le contexte. Virginie, Terre et Humanisme, en 1994, c'était quoi et quelles valeurs étaient sous-tendues ?
Alors, Terre et Humanisme, en 1994, c'est déjà, ça s'appelle les Amis de Pierre Rabhi. En fait, cette association a été créée au départ pour soutenir la vision de Pierre Rabhi, de l'aider à diffuser en fait sa vision de l'agroécologie. Donc au départ, c'était tout petit, hein. C'était, je pense, une secrétaire formation et puis quelqu'un qui organisait les conférences et les déplacements de Pierre. Et puis des petites formations qui pouvaient se placer chez lui. Ensuite, l'association a changé de nom en 2000, en 99-2000, est devenue Terre et Humanisme et a eu pour vocation en fait de transmettre l'agroécologie au plus grand nombre et dans la foulée a acheté un lieu qui s'appelle donc le Mas de Beaulieu, enfin qui se situe à la Blachère. Et l'idée c'était de transmettre l'agroécologie au plus grand nombre en ayant un espace de démonstration et d'expérimentation. On a gardé les valeurs qui sous-tendaient en fait le début de l'association, c'est-à-dire transmettre une vision de l'agroécologie inspirée par Pierre Rabhi. Donc ça a toujours été le fil conducteur. Pierre est devenu le président d'honneur de Terre et Humanisme, donc n'est jamais intervenu dans l'opérationnel, mais on s'est toujours relié à cette vision qui était pour nous philosophique aussi, intéressante, qui du coup c'était une agroécologie humaine qui alliait l'écologie et les hommes, et ne pas les séparer les uns des autres.
C'est ça, parce que pour celles et ceux qui n'écoutent pas, le vendredi à 16h30 sur Fréquence 7 Radio Potager, animé par les jardiniers de Terre et Humanisme, c'est du placement de produits. L'agroécologie, qu'est-ce que c'est ?
Alors l'agroécologie, alors ça, c'est toujours difficile à expliquer en fait. C'est un peu, on nous parle beaucoup de permaculture, d'agroécologie, c'est des noms qui se ressemblent en fait et c'est des valeurs communes. Donc on n'a pas de...
Vas-y. Ouais. En quoi justement c'est différent de l'agriculture biologique, de la permaculture ? J'ai lu que ça pouvait être compatible même avec l'agriculture dite conventionnelle.
Alors ça, c'est un vrai débat que je ne lancerai pas, parce qu'en fait, je laisse ça à nos jardiniers qui sont beaucoup plus expérimentés. En fait, notre idée de l'agroécologie, c'est assez ouverte, en fait. C'est relier les hommes et la nature, c'est-à-dire pouvoir manger à sa faim tout en renouvelant et préservant le patrimoine nourricier. Donc en fait, ça pourrait être de l'agriculture biologique, mais qui intègre en son sein de la biodiversité. Ça pourrait être de la permaculture, parce qu'aussi il y a des histoires de design, il y a de circulation des intrants, comment on se nourrit, comment on se déplace, comment on se chauffe. Et en fait, on fait de l'agroécologie, mais en fait, on fait de l'agriculture naturelle, on fait de l'agriculture qui intègre le vivant. Mais quand même, l'objectif, c'est quand même de se nourrir, mais en respectant aussi les humains.
Parfait. Virginie, si je me suis tournée vers toi pour te poser la question aussi sur l'historique de Terre et Humanisme, c'est parce que tu m'as dit en préparant l'émission que ça faisait 22 ans que tu étais à Terre et Humanisme. Alors c'est toujours intéressant de savoir quelles étaient tes motivations, déjà ce que tu fais aujourd'hui et quelles étaient tes motivations quand tu es entrée à Terre Humanisme ?
Alors moi, j'étais bénévole au départ. En fait, avec mon compagnon, on était bénévole, on avait un restaurant en Vence et on soutenait le programme du Mali en organisant aussi des soirées au profit du programme, parce que Terre Humanisme a toujours eu, suite aussi à la présence de Pierre Rabhi, un lien avec l'Afrique de l'Ouest. Donc ça, historiquement, on est toujours en lien avec l'Afrique de l'Ouest. Et donc, j'étais comme ça, bénévole à cette association, et l'assistante de Pierre Rabhi a démissionné. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas, j'y suis allée. Mais moi, ma motivation, c'était de travailler dans un endroit qui avait du sens, qui promouvait quelque chose d'assez éthique au niveau de son fonctionnement, et puis de ce qu'elle transmettait. Donc, et puis moi, je suis documentaliste de formation, donc travailler pour un écrivain qui parle de la Terre, c'était vraiment un combo gagnant.
Mmh. Et toi, Julia, quel est ton parcours ? Pourquoi tu es entrée à Terre Humanisme ?
Moi, ça fait beaucoup moins longtemps que Virginie, ça fait pas même 2 ans que je suis là. Et j'ai commencé comme volontaire aussi il y a très longtemps. Et puis après, j'ai fait une formation qui s'appelle Animée en agroécologie. Du coup, je suis devenue animatrice et voilà, j'ai vogué ailleurs. Et la vie a fait qu'on est arrivé en Ardèche. Et voilà, du coup, j'ai pu faire plus de liens avec Terre et Humanisme à nouveau. Et jusqu'à ce qu'ils me proposent un poste il n'y a pas longtemps, il y a 2 ans, de chargée de projet de Solidarité France. Mmh. Voilà.
Parce qu'aujourd'hui, donc, on propose un poste, l'association est beaucoup plus importante. Un mot sur cette association aujourd'hui et peut-être sur la gouvernance aussi de la structure ?
Alors, on est sur une gouvernance partagée, une gouvernance intégrative, comme on dit. En fait, on a eu l'association depuis des années à voguer. On était 4 salariés quand je suis arrivée en 2001. Et on est plus d'une vingtaine maintenant, pas forcément en équivalent temps plein, mais disons qu'on est une bonne vingtaine, entre 20 et 25. Donc là, il a fallu quand même s'organiser différemment. Quand l'association a grossi, les salariés dont je faisais partie ont eu envie d'avoir quelqu'un qui pouvait prendre des décisions au quotidien. Donc on a demandé à avoir un directeur. Donc on a eu un directeur en 2006, pendant 2 ans, quelque chose comme ça, qui ensuite est parti. On a eu une directrice qui a fait un burn-out. Mais c'était un burn-out, on ne savait pas qu'elle faisait un burn-out, donc en fait son arrêt maladie était renouvelé de mois en mois, et il a fallu qu'on s'organise en attendant son retour. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on pouvait aussi trouver une autre organisation, une organisation différente, qui était plutôt par pôle d'activité, par projet, avec bien sûr le conseil d'administration en tête de proue et en employeur, mais on a commencé à inventer notre propre gouvernance partagée, nos propres outils de gouvernance. Donc on a commencé, pour la petite anecdote, par une structure qui s'appelle le jardin intérieur, où en fait on s'est dit, on va prendre soin des uns des autres, on va faire un organe de veille pour éviter que se reproduise un burn-out. Voilà. Et puis après on a fait les ressources humaines, parce qu'en fait c'était ça le nœud du problème. Quand on est employeur et salarié, il faut qu'on tourne, donc c'était les ressources humaines le plus important après. Et après il y en a eu plusieurs, comité éthique, comité des risques, etc.
D'accord, donc une vingtaine de salariés aujourd'hui. Et aujourd'hui, Terre et Humanisme, qu'est-ce que c'est ? On a parlé des valeurs qui étaient au départ. Aujourd'hui, qu'est-ce que c'est ? Quelle est l'évolution ou les évolutions significatives pour vous, les plus significatives 30 ans après ?
Alors, Julia pourra parler de l'évolution de côté Solidarité France, en fait, puisque ça fait quelques années, on parlait beaucoup de solidarité internationale à une époque. Ça, c'est toujours le cas, on est toujours en lien avec des partenaires et qu'on accompagne. Mais c'est quelque chose aussi qui s'est relocalisé en France, donc je viens pour en parler. Moi, ce que je trouve le plus en ce moment, donc c'est, on trouve qu'on a on a vraiment notre place. La sécurité alimentaire, la souveraineté alimentaire, c'est des choses dont on va parler dans nos tables rondes. C'est quelque chose de très réel, de très impactant sur nos vies quotidiennes. Donc on a notre place à continuer à travailler, malheureusement. On pourrait ne pas voir, mais c'est vraiment le cas. Et puis c'est quelque chose qui nous touche aussi, c'est le fait qu'on s'est rendu compte que dans notre éthique, c'était transmettre l'agroécologie au plus grand nombre, et on avait le support de la formation pour ce faire. Et depuis le Covid, la formation en présentiel dans plein d'organismes de formation a dégringolé, entre guillemets. Il a fallu trouver d'autres façons de transmettre. Et on s'est bien diversifié sur plein d'activités qui répondaient aussi aux besoins de la société. Donc on évolue aussi au contact des demandes qu'on a et de l'évolution de la société.
Julia, même question. Pour toi, l'évolution, sans parler forcément d'évolution, puisque tu as dit que tu étais là depuis moins longtemps, mais pour toi, le cœur de Terra Humanisme aujourd'hui, c'est quoi pour toi ?
Bah, pour moi, en tout cas, ce qui m'anime dans mon travail à Terra Humanisme, c'est clairement cette possibilité aujourd'hui, avec tous les projets de solidarité qu'on commence à mettre en place en France, d'allier justement plus de social avec l'agroécologie, où on était plus, bien sûr, avec prendre soin de l'humain, mais plus sur de la technique. Et voilà, donc ça, moi, ça me parle énormément. Et après, il y a également quelque chose qui a beaucoup changé la vie de l'association, c'est l'achat de la ferme de la Noria, il y a plus de 2 ans. C'est une ferme qui est située dans le nord du Gard, qui fait plus de 4 hectares. Et c'était un souhait de beaucoup de salariés et de membres du CA de toucher une autre partie de la population qui soit pas que le grand public, mais d'aller vers les paysans et les paysannes. Et du coup, cette ferme, elle permet ça, de par son format. Et voilà. Donc du coup, je trouve que c'est un des...
Et dans ce que tu dis, affleure, pour moi, deux choses très intéressantes. C'est qu'on a pu reprocher, à un moment donné, à Terra Humanisme, peut-être d'être paradoxalement hors sol vis-à-vis d'une réalité sociale, politique au sens large, global. Et aujourd'hui, l'association semble prendre sa part... et c'est-à-dire s'inscrire vraiment, tu le disais, dans des questionnements politiques et sociétaux et sociaux. J'aimerais que tu dises un mot notamment sur ce qui se passe autour du collectif pour la sécurité sociale alimentaire.
Ouais. Du coup, ça fait... nous, en tant que Terra Humanisme, ça fait à peu près 1 an qu'on a rejoint ce collectif qui était en création avec un agriculteur et une agricultrice de la Blachère et le Siva Mardèche. Donc on a rejoint l'aventure et là, ça fait 1 an, le collectif s'est étoffé avec la Biocoop des Vences, l'Action sociale qui commence à également s'intéresser à ça et plusieurs citoyens et citoyennes qui vraiment veulent prendre part dans ce projet. Oui, aujourd'hui, concrètement, c'est la mise en place de 2 marchés de producteurs pour cette saison à prix différencié, donc au Viala et au Hameau des Buis. On a choisi ces marchés parce que c'est les agriculteurs qui c'était déjà en place, donc c'était facile d'expérimenter. Et voilà, ça fait quelques mois que c'est en place.
Alors, pour qu'on comprenne bien, la sécurité sociale alimentaire, qu'est-ce que c'est ? Et les prix différenciés, qu'est-ce que c'est ?
Ok. Donc, pour faire court, la sécurité sociale de l'alimentation, c'est un collectif qui s'appelle le collectif SSA, qui porte ce projet en France. Il y a également une autre initiative qui s'appelle Territoire à vivre, mais en gros, pour faire court, il milite pour une 6e branche de la sécurité sociale de la sécurité sociale qui serait fléchée sur de l'alimentation, et donc une alimentation de qualité pour tous et pour toutes. Donc ça, c'est le souhait ultime. Et entre-temps, y a plein de petites initiatives locales en France et des plus grandes aussi qui voient le jour. Depuis des caisses locales, des marchés à prix différenciés, chaque collectif le fait de la façon qu'il souhaite pour expérimenter. Et voilà, du coup, nous, on a commencé par ce qui nous paraissait le plus facile parce qu'on avait des agriculteurs et des agricultrices avec nous, c'était les marchés à prix différenciés. Donc c'est simple, tu rentres dans le marché et il y a une proposition de 3 prix. Donc le prix normal, c'est le prix que tu payes dans le marché quand tu rentres, sans rien changer. Le prix solidaire, c'est un prix à 120%. Donc tu dis, en ce moment, je peux me permettre de jouer le jeu et de mettre un peu d'argent dans la caisse pour que d'autres personnes qui ont moins de moyens en ce moment puissent en bénéficier. Et le prix accessible, c'est 70% du prix normal. Voilà, et donc c'est des caisses mutualisées sur le marché. Et pour l'instant, ça marche, les gens jouent le jeu, les caisses sont excédentaires. Et voilà, donc on fait l'expérimentation sur l'été et on verra un peu les leçons qu'il y aura à en tirer et où est-ce qu'on voudra aller avec ça.
Est-ce que vous avez vu des gens qui n'allaient pas sur ces marchés, qui y vont maintenant ?
Alors... on commence doucement à en avoir, mais c'est clairement le point qu'il va falloir qu'on travaille. Et c'est pour ça que ça nous tient vraiment à cœur qu'il y ait des structures qui accompagnent les personnes en situation de précarité. Si elles peuvent intégrer le collectif, ça serait vraiment chouette, parce que c'est pas facile quand c'est pas l'endroit où tu vas faire tes courses de venir. C'est pas facile d'oser dire qu'on a besoin d'un prix accessible. Donc ça va être un long travail, voilà. Mais en tout cas, on est au début, aux prémices.
Et ça fait peut-être le lien avec un autre projet. Enfin, en tout cas, c'est toujours dans cette idée de justice alimentaire, un projet que vous faites au niveau national, cette fois-ci, avec les Restos du Cœur. Qu'est-ce que c'est ?
Alors, le projet avec les Restos du Cœur, c'est de l'expertise et de l'accompagnement technique sur mesure pour les jardins en réponse aux enjeux de transition au changement climatique. Et donc, cette année, les jardiniers de Terre Humanisme ont réalisé un diagnostic agroécologique et ils ont accompagné les encadrants des Restos du Cœur à des montées en compétences. Donc, il y a 5 jardins accompagnés aujourd'hui en France.
D'accord. Et pas encore en Ardèche ?
Pas encore en Ardèche. Pour l'instant, c'est les Restos du Cœur, les assos locales qui viennent solliciter Terre Humanisme sur des projets précis. C'est souvent, c'est toujours des structures des Restos du Cœur qui ont des jardins. Voilà, mais en tout cas, on est carrément ouvert à que ce soit en Ardèche.
Ça peut être un appel.
Oui.
Est-ce que je peux rajouter quelque chose ?
Bien sûr,
Sophie.
Virginie.
Tu disais tout à l'heure que Terre Humanisme était peut-être un peu hors sol, enfin a été vécu en tout cas,
considéré
oui. comme hors sol. En fait, je pense qu'on se sent légitime maintenant. En fait, il faut imaginer qu'on a acheté le mas de Beaulieu en 2000. C'était une terre à vigne complètement impropre à la culture, complètement desséchée. Et maintenant, c'est un jardin qui est vraiment très productif. On a pu prouver que l'agroécologie a gradé les sols, donc restaurer les sols. On a pu montrer que voilà, on avait un savoir-faire, une technique qu'on pouvait aussi transmettre autrement. Et donc, on se sent aussi plus légitime et plus mûr pour intégrer des collectifs. Donc, on a intégré le collectif Pétale 07 aussi sur tout ce qui est dynamique de compostage avec guide et maître composteur. Donc, il y a des choses qui se font maintenant localement où on se sent plus légitime de le faire, peut-être. Mmh.
Oui, c'est intéressant cette mise en réseau, voilà, avec les autres structures qui œuvrent sur le territoire dans une même optique, dans une même idée de respect et de rendre juste, un peu plus juste, à la fois l'alimentation, qu'on la produise ou qu'on l'achète et qu'on la mange. Justement, un mot avant de passer à la programmation sur les formations. Elles sont pour qui ? Elles sont à destination de qui, ces formations ?
En fait, on a plusieurs types de formations. On est organisme de formation depuis 2000, donc ça fait un petit moment maintenant. Donc, historiquement, on a toujours eu des formations grand public, donc une formation catalogue, qu'on appelle ça, des formations inter, ou qui s'adresse à tout public, mais il peut y avoir des professionnels dedans. Par exemple, on a des formations qui se situent plutôt en Ardèche, dans notre lieu, évidemment, mais on a, par exemple, deux lieux partenaires, un lieu qui est dans le Gers, qui s'appelle la Ferme en coton, où c'est une formation de 2 jours sur poule pondeuse et conduite d'un élevage en agroécologie. Et là, c'est vraiment un agriculteur, c'est un éleveur hein, qui fait cette formation-là. Et c'est souvent des porteurs de projets ou des agriculteurs qui veulent dynamiser ou changer un peu leur revenu, qui vont là. On a aussi un autre lieu partenaire, c'est plutôt une ferme en permaculture, donc c'est prise de terre, voilà, dans le Cantal. Et puis sinon, on fait de la formation sur mesure à la destination, un peu comme pour les Restos du Cœur, mais pour des entreprises, pour ça dépend qui nous demande, pour des chambres d'agriculture, etc.
Vous êtes ouvert. Oui,
je voulais rajouter une petite information, parce qu'avec le projet Habitat Humanisme, il y a également des formations sur mesure pour les résidents et résidentes de Habitat et Humanisme, qui est une fédération nationale et qui s'occupe du mal-logement. Et donc, ils ont en France des CADA, des CHU, des pensions de famille, des maisons intergénérationnelles. Et tous ces résidents peuvent venir à Terre Humanisme et faire des formations jardin ou cuisine.
Mais ça, au niveau national, hein, puisqu'on le redit, c'est vrai que là, on est centré sur l'Ardèche. Mais il y a plein de choses qui se passent au niveau national et aussi au niveau international. Mais vous disiez, là, c'est peut-être un petit peu en suspens avec les interrogations géopolitiques. C'est ça ?
Oui, ça a évolué. Alors, c'est vrai que nos collègues de l'international pourraient mieux en parler, mais on travaille en Afrique de l'Ouest et en pourtour Méditerranée. Et en pourtour Méditerranée, c'est comme en Afrique de l'Ouest, c'est un petit peu compliqué en ce moment, géopolitiquement parlant.
Creusons donc les sujets ici, en France et en Ardèche. Et Parlons aussi, oui, Julia, de ce qui va se passer pour les 30 ans. On a parlé sérieusement, là, mais il va y avoir aussi quand même quelque chose d'un peu festif. Dis-nous un peu, il va y avoir de la réflexion avec des tables rondes. Ça, j'aimerais qu'on en dise un mot. On sera dans le festif après pour terminer.
Ouais. Il y aura 3 tables rondes. Donc la première à 14h, ça sera sur l'engagement individuel. Et l'intention de cette table, c'est un échange sur comment contribuer sans s'épuiser. Donc on sent un essoufflement de l'engagement dans le milieu associatif et des vrais enjeux de remobilisation. Donc c'est ces questions qui vont être abordées dans cette table ronde.
Première table ronde
à 14h. La deuxième, ça sera à 15h15. Et la thématique, ça sera la souveraineté alimentaire. Et donc ce concept a été dévoyé par les politiques et il ne correspond en rien à la souveraineté alimentaire prônée de longue date par notamment Bia Campesina et la Confédération Paysanne, qui est au contraire de donner la priorité à la production agricole locale pour nourrir la population. Et donc l'idée de cette table ronde, c'est de se poser la question de quelle souveraineté alimentaire nous parlons et nous souhaitons.
Un mot juste, est-ce que vous êtes en lien avec justement la Confédération Paysanne ?
Alors, je pense qu'à titre individuel, certains d'entre nous le sont. Après, historiquement, on est apolitique, on n'est pas lié à des syndicats. Donc oui, à titre personnel, on est en lien avec certaines personnes de la Confédération Paysanne. On est très en lien avec les CIVAM, donc avec des agriculteurs. Après, on n'est pas en lien officiel avec la Confédération Paysanne, mais on signe des tribunes communes maintenant sur des plaidoyers, des choses comme ça.
Et c'est-à-dire, par exemple, là, au moment de la crise qui a secoué le monde agricole et le monde paysan, quelle était la position de Terre Humanisme ? Il n'y en avait pas d'officiel ou alors c'était...
Alors là, je ne sais pas. Je sais qu'il y a eu un communiqué de presse, mais...
C'est pas moi qui me suis occupée de ça, c'est la com. Et je sais qu'il y a eu une signature, des signatures de données, mais je ne sais pas sur quel collectif.
Bon, il faut espérer que ce soit plus la Confédération Paysanne. troisième table ronde.
Donc la troisième table ronde, c'est...
Justement, les paysans et les paysannes.
Voilà, paysans et paysannes, à 16h30. Du coup, ils ont été au cœur des discussions ces derniers mois. L'idée, c'est que leur voix doit se faire entendre au-delà des syndicats et des injonctions politiques, et du coup, leur laisser la parole. Donc il y a 3 agriculteurs et agricultrices qui vont parler à ce moment-là.
Et notamment Noémie Calais, qui avait écrit un bouquin « Plutôt nourrir ». L'appel d'une éleveuse. Merci, donc table ronde. On a dit qu'il va y avoir aussi des balades, des ateliers lactofermentation, je pense.
C'est ça. Durant toute la journée, entre 10h30 et 18h, il y aura des animations pour les petits et les grands, avec effectivement des ateliers de lactofermentation. Moi, je vais animer un jeu collaboratif qui s'appelle La Marmite, sur justement le principe de sécurité sociale de l'alimentation.
Ce sera quand, ça ?
À 11h, 14h30 et 17h.
Ok. Donc, je vous rappelle, on est samedi 8 juin sur la place de Paysac.
Oui, c'est ça. Il y aura également des animations reconnaissance de graines, des animations sur les protéines végétales, initiation aux empreintes végétales pour les enfants... Voilà, café échange, balade ethnobotanique, etc., etc. Et après, il y aura un spectacle à 17h tout public autour de l'écologie avec la compagnie Kodama. Et la soirée festive commence à 21h avec Bamaïa, VG Trio qui est du jazz manouche à 21h30, Bamaïa à nouveau et Commandant Cousteau qu'on a écouté tout à l'heure à 23h15. Et ça se finira avec un DJ set électropical de Radio Micheline à minuit 45.
Les copains de Radio Micheline. Ouais, gros programme. On retrouve toutes les informations de la journée sur le site de Terre et Humanisme.
Oui.
Avant de se quitter, Terre et Humanisme, pas dans 30 ans, mais dans 10 ans pour vous, c'est quoi le Terre et Humanisme rêvé ? Virginie.
Waouh. Terre et Humanisme rêvé, j'aimerais bien qu'on n'existe plus, parce que ça voudrait dire que... Il y a l'alimentation pour tous, partout.
Julia ?
Aussi, effectivement, mais peut-être que toutes les actions qu'on mène aujourd'hui continuent à se déployer, que la ferme de la Noria puisse vraiment s'installer, prendre de l'ampleur et se grandir.
grandir, pousser. Merci beaucoup Julia et Virginie de Terre et Humanisme, Julia Berda, chef de projet Solidarité France, et Virginie Sanchez, coordinatrice des formations, qui était là, qui est encore là, dans les studios de Fréquence 7. On retrouve maintenant la Minute Associative.
La Minute Asso.
La Minute Associative avec Mylène Villard, qui est coordinatrice des structures de loisirs Sud-Ardèche, qui va nous présenter une expérimentation originale, la VAE inversée, validation d'acquis et d'expérience inversée, qui concerne donc les associations du secteur de la petite enfance et de l'enfance de l'Ardèche. Bonjour Mylène.
Oui, bonjour.
Mylène, est-ce que vous pouvez nous présenter, vous présenter et présenter aussi votre structure ?
Oui, alors effectivement, je suis coordinatrice des centres de loisirs sur le sud du département au sein de familles rurales et j'ai un homologue pour le nord du département qui s'appelle Nicolas Schwerer. Et il y a environ une soixantaine de centres de loisirs sur l'ensemble du département et nous coordonnons des collectifs de directeurs et animateurs sur le territoire dans le but de permettre l'échange, la mutualisation des services et des actions collectives, mais aussi la montée en compétences et aussi faire des allers-retours sur les besoins et les vigilances à avoir sur ce secteur d'activité. Et sur ces 60 centres de loisirs, nous en avons une grosse partie qui sont en gestion associative, fédérée ou non fédérée.
D'accord.
Voilà, et notre association, donc Famille Rurale, c'est une association qui se différencie par sa dimension familiale, qui l'amène à prendre en compte les attentes de toutes les générations et de toutes les familles. Et en plus de centres de loisirs qui sont notamment sur le nord du département, elle a pour mission donc la coordination des centres de loisirs sans distinction. Voilà.
Merci, c'était bien complet. Alors vous voulez nous parler de la validation d'acquis d'expérience inversée. Qu'est-ce que c'est ?
Oui, alors c'est un dispositif qu'on a répondu à une expérimentation du coup du ministère du Travail parce que nous avions constaté que de nombreuses associations sont en difficulté et les centres de loisirs ne sont pas épargnés par la baisse de subventions notamment. Hein, de 2005 à 2020, on constate qu'il y a une baisse de subventions de 41%, c'est énorme. Donc les centres de loisirs ne sont pas exempts de ça, ils ont des difficultés financières et ils ont aussi des difficultés de recrutement. Donc on a constitué un groupe de travail sur les métiers en tension au sein du schéma départemental des services aux familles et suite à quoi on a trouvé une solution qu'on propose, qu'on démarre depuis mai sur ces métiers-là qui est la VAE inversée. Donc c'est un dispositif qui est assoupli de par son nom et simplifié. On a répondu en partenariat avec l'ACEP qui coordonne les réseaux Petite Enfance sur ces secteurs d'activité enfance et petite enfance et Ardéchois. Donc à ce jour, on est le seul dossier en France sur ce secteur d'activité. Donc on est plutôt satisfait de pouvoir proposer cette démarche-là sur le département.
Alors,
on
a compris le cheminement de la démarche. Et au final, la VAE, ça donne quoi ?
Alors, la VAE inversée. Oui, c'est ça. Donc contrairement à la VAE classique que beaucoup de personnes connaissent où on va valider des expériences passées, là on est sur un projet personnel, professionnel, mais aussi un projet de structure puisque c'est comme un deal salarié-employeur. Voilà, ça va être adossé à un contrat de professionnalisation qui peut faire avenant au contrat de travail si on est en emploi. Et l'objectif, c'est de permettre la montée en compétences des personnes qui sont en poste ou en recherche d'emploi pour acquérir des compétences au fur et à mesure des mois accomplis en contrat sur 3 diplômes de la petite enfance et 3 diplômes de l'enfance jeunesse. Voilà, donc je peux vous citer peut-être ces diplômes qui sont ciblés. Il y a pour la petite enfance le CAP accompagnateur éducatif petit enfant, le DE auxiliaire de puériculture, le DE éducateur de jeunes enfants. Et sur l'enfant jeunesse, on a le CPGEPS animateur, le BP LTP loisirs tout public et le DE GEPS. Voilà pour les niveaux de diplôme. Et ce qui est important de souligner, c'est que l'ensemble des formations et accompagnements sont pris en charge, ainsi que les frais annexes, déplacement, restauration, pour un plafond de 9 000 euros. Donc l'enveloppe est quand même assez conséquente sur la VAE inversée.
Donc si on résume, si on est une asso, petite enfance, jeunesse sur un territoire un peu reculé en Ardèche, qu'on a des difficultés pour recruter, l'idée c'est de recruter sur un profil atypique et de proposer ensuite une VAE inversée sur le niveau de diplôme nécessaire pour le poste. C'est ça l'idée ?
Oui, tout à fait. Ça, c'est pour les personnes qui sont en poste. Mais il y a aussi, vous êtes salarié d'une association et que vous souhaitez recruter et que vous êtes reculé, mais si vous êtes un salarié d'une association et que vous souhaitez monter en compétences et que vous faites déjà des missions d'un diplôme que vous n'avez pas forcément, mais c'est l'occasion de se lancer avec l'accord de l'employeur. Voilà les deux situations effectivement possibles.
Ok, merci. Pour terminer, concrètement, comment font les structures ou les salariés employés qui sont intéressés ? Vers qui s'adressent-elles ? Est-ce qu'elles s'adressent vers vous ? Est-ce qu'elles s'adressent vers Guy Dassault ? Comment ça marche ?
Alors, les deux sont possibles. On fait partie de Guy Dassault. On est accompagnateur spécialiste. Donc, c'est Guy Dassault, c'est toutes des structures associatives également avec la MAVA. Donc, vous pouvez vous adresser au Guy Dassault et être redirigé vers Famille Rurale, ou vous pouvez également directement vous orienter sur notre structure. Les deux sont possibles.
Famille Rurale, vous êtes basée où ?
Alors, à Annonay, le siège social est à Annonay et on a une antenne sur le centre social Le Palabre à Aubenas aussi.
Ok, rendez-vous au centre social Le Palabre. Merci beaucoup. Mylène Villard, coordinatrice des structures de loisirs Sud-Ardèche, de nous avoir présenté cette VAE inversée. Merci à vous. C'est la fin de cette émission et restez à l'antenne de Fréquence 7, comme on dit dans les radios, puisqu'à 13h, c'est les jardins suspendus, à 15h, c'est le Telex, vos messages vous annoncent au 04 75 93 30 25, à 17h, la rediffusion de cette onde curieuse, à 18h, c'est Solidaire d'abord, à 19h, tu danses, l'actualité du folk et du baltrad par chez nous, à 20h, chez Tonton, toute la musique africaine d'aujourd'hui, et à 21h, Hexagone Jazz & B, c'est une rediff, n'est-ce pas Sylvain ? C'est une rediff. Et nous, on se retrouve demain pour une prochaine onde curieuse. Merci à tous, merci Sylvain, ciao.